Bienvenue sur l'émission Constellations, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, il est trop facile quand on évoque l'œuvre du poète anglais John Keats de présenter l'habituel cliché, le poncif du poète romantique, torturé, solitaire, mélancolique et pris d'un amour tortueux et entravé, fauché trop tôt par la mort. On peut même être tenté de faire de lui l'archétype de la sensibilité romantique ou du moins de l'idée que l'on s'en fait le plus souvent. À cet égard, il n'est pas exclu de considérer que la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion ait pu, elle aussi, tomber dans ce travers avec son film de 2009, Bright Star. En effet, le biopic est centré sur les dernières années de la vie de Keats et particulièrement sur sa relation amoureuse avec Fanny Brown. Sans juger à l'emporte-pièce, mieux vaut toutefois revoir ce film sensible. Et c'est peut-être à cet autre poète, William Butler Yeats, à qui une émission a déjà été consacrée, qu'il faut recourir pour ébaucher une approche de Keats. En effet, dans un poème intitulé « Ego dominus tuus », qui fait dialoguer un « hic » et un « ille » latin, Yeats forge les vers suivants sur Keats qu'il admirait tant. Je cite les vers « hic ». Pourtant, personne ne peut nier que Keats aimait le monde. Souviens-toi comme il voulait y être heureux. Il l'est. Heureux son art, mais que savons-nous de son cœur ? Je vois, lorsque je pense à lui, un gamin le nez collé à la vitrine d'une confiserie, car sûrement, lorsqu'en sa tombe il disparut, ni son corps ni son cœur ne s'étaient rassasiés. Et il a fait, lui pauvre, malade et ignorant, lui jamais invité aux fêtes de ce monde, enfant d'un remiseur aux manières de rustre, le plus beau chant du monde. Ce chant du monde, cette luxurian song dans la version originale en anglais, cette deliberate happiness, ne rejette toutefois pas pour autant la mélancolie, indissolublement liée au sentiment romantique de la vie, pour paraphraser la célèbre formule du philosophe espagnol Unamuno. En témoigne, par exemple, le premier texte que je vais lire, qui est justement l'ode sur la mélancolie. Non, non, ne te plonge pas dans le léthé, ne pressure pas l'aconite aux racines serrées pour recueillir son jus empoisonné. Ne laisse pas ton front pâle subir le baiser de la belladone, raisin vermeil de Proserpine. N'égrène pas comme un rosaire les baies de l'If, que ni le scarabée, ni la phalène de mort ne soient à lugubre psyché, ni le duveteux hibou, ton partenaire, dans les mystérieuses souffrances. Car ombre sur ombre surviendront, aussi assoupissantes, et étoufferont l'angoisse en éveil dans ton âme. Mais, lorsqu'un accès de mélancolie tombera soudain du ciel, telle une pleurante nuée qui revivifie chaque fleur dont la tige s'incline et couvre la verdoyante colline de son linceul d'avril, alors assouvis ton désespoir sur une rose du matin ou sur l'arc-en-ciel de la grève salée ou sur l'opulence des globuleuses pivoines. Ou si ton amante témoigne quelque délicieux courroux, emprisonne sa douce main et laisse-la extravaguer. Et rassasie-toi pleinement, pleinement de ses incomparables regards. Elle demeure avec la beauté qui doit mourir, et la joie dont la main est toujours à ses lèvres, faisant un signe d'adieu. Et près d'elle, le douloureux plaisir se changeant en poison au fur et à mesure que la bouche d'abeille le suce. Oui, dans le temple même de la jouissance, la mélancolie voilée à son autel souverain, que seul peut voir celui dont la langue énergique peut écraser le raisin de la joie contre son palais délicat. Son âme goûtera la tristesse de sa puissance et sera suspendue parmi les trophées des nuages. Voici la version en anglais.
Ode on melancholy. No, no. Go not to Lethe. Neither twist wolfsbane tight-rooted for its poisonous wine, nor suffer thy pale forehead to be kissed by nightshade, ruby grape of Proserpine. Make not your rosary of yew berries, nor let the beetle nor the death moth be your mournful psyche, nor the downy owl a partner in your sorrow's mysteries. For shade to shade will come too drowsily and drown the wakeful anguish of the soul. But when the melancholy fit shall fall sudden from heaven like a weeping cloud that fosters the droop-headed flowers all and hides the green hill in an April shroud, then glut thy sorrow on a morning rose, or on the rainbow of the salt sand wave, or on the wealth of globed peonies. Or if thy mistress some rich anger shows, imprison her soft hand, and let her rave, and feed deep, deep upon her peerless eyes. She dwells with beauty, beauty that must die, and joy whose hand is ever at his lips bidding adieu, and aching pleasure nigh turning to poison while the bee mouth sips. Aye, in the very temple of delight, veiled melancholy has her sovereign shrine, though seen of none save him whose strenuous tongue can burst joy's grape against his palate fine. His soul shall taste the sadness of her might and be among her cloudy trophies hung.
Si j'en relis les derniers vers, qui sont significatifs, A, in the very temple of delight, veiled melancholy has her sovereign shrine, though seen of none, save him whose strenuous tongue can burst joy's grape against his palate fine. Oui, dans le temple même de la jouissance, la mélancolie voilée a son autel souverain que seul peut voir celui dont la langue énergique peut écraser le raisin de la joie contre son palais délicat. Ainsi voit-on s'exercer une tension entre le Temple of Delight et la Veiled Melancholy. C'est pourquoi il faut avoir recours à la correspondance de Keats pour mieux appréhender sa conception de la création poétique. Contemporain de Coleridge, de Shelley, de Byron et de Wordsworth, Keats tient à se distinguer d'eux et particulièrement de Wordsworth. Voici un fragment d'une lettre qu'il a écrite le 27 octobre 1818 au conseiller littéraire de sa maison d'édition, Woodhouse. Je précise que l'expression dans le texte, l'expression latine « per se » signifie « en soi, pour soi », que Iago est l'homme qui poussera Othello à tuer son épouse Desdémone, et qu'Imogène est un autre personnage shakespearien de la pièce Cymbeline, dont la fin, contrairement à celle d'Othello, est heureuse. Je cite donc des fragments de cette lettre. « Quant au caractère poétique, je parle de l'espèce à laquelle j'appartiens et qui se distingue du sublime Wordsworthien ou égotiste, lequel est une chose percée et isolée. Il n'existe pas en lui-même, il n'a pas de moi, il est tout et rien, il n'a pas de caractère. Il aime la lumière et l'ombre. Il vit in gusto, que l'objet soit laid ou beau, haut ou bas, riche ou pauvre, mesquin ou élevé. Il a autant de joie à concevoir un Iago qu'une Imogène. Ce qui choque, le vertueux philosophe enchante le poète caméléon. Il ne nuit pas davantage par sa délectation du côté sombre des choses que par son goût pour le côté lumineux, car les deux finissent dans la spéculation. Un poète est la chose la moins poétique qui existe parce qu'il n'a pas d'identité. Il anime et emplit continuellement un autre corps. Le soleil, la lune, la mer, les hommes et les femmes, créatures douées d'impulsions, sont poétiques et possèdent un attribut permanent. Le poète n'en a pas, il est sans identité. C'est sûrement la moins poétique de toutes les créatures de Dieu. Si donc il n'a pas de moi, et si je suis un poète, en quoi est-il surprenant que je dise que je n'écrirai plus ? Fort heureusement, cette volonté de ne plus écrire restera un vœu pieux. On ne peut, dans le cadre de cette émission, rendre compte des grandes œuvres de Keats, Endymion, A Poetic Romance qui compte 4000 vers et qui débute par ce vers célèbre, A Thing of Beauty is a Joy Forever, Hyperion, Lamia, etc. On retiendra donc ceux des poèmes qui, plus courts, interrogent et aident à cerner le poète romantique, rival et contemporain du peintre et dessinateur allemand Caspar David Friedrich, par exemple lorsque ce dernier peint un voyageur contemplant une mer de nuages. Tableau précisément daté de 1818, soit 2 ans après le véritable début des créations poétiques de Keats. Lisons par exemple le poème sans titre qui débute par le vers « When I have fears that I may cease to be » « Quand je crains de cesser d'être avant que ma plume ait glané mon fertile cerveau, avant qu'une pile élevée de livres dans leurs caractères imprimés renferme comme de plein grenier une moisson bien mûre, quand j'étudie sur la face étoilée de la nuit les vastes symboles nuageux d'un haut poème et sans que je ne vivrai jamais pour retracer leurs ombres avec la main magique de la chance, et quand je sens, exquise créature d'une heure, que je ne te verrai jamais plus devant moi, que je ne savourerai plus l'enchanteur pouvoir de l'inconscient amour, alors, sur la grève du vaste monde, je me tiens seul et je médite jusqu'à ce qu'amour et gloire plongent dans le néant. Ou encore le poème intitulé « Oh solitude, if I must, with thee dwell ». Oh solitude, si je dois habiter avec toi. Je précise avant de le lire qu'un empan est un espace, désigne l'espace maximum entre l'extrémité du pouce et celle du petit doigt de la main grande ouverte. Ô solitude, si je dois habiter avec toi, que ce ne soit pas parmi les entassements confus de sombres masures. Gravise avec moi le pic escarpé, observatoire de la nature, d'où le vallon, avec ses pentes fleuries et le gazouillis cristallin de sa rivière, puisse sembler un empan. Que je passe tes veillées sous des voûtes de branches où le daim, par ses bonds rapides, écarte l'abeille sauvage de la digitale à clochette. Mais, quoique je sois heureux d'assister à ces scènes en ta compagnie, pourtant, l'aimable causerie avec un esprit naïf, dont les propos sont des images de pensées délicates, est la joie de mon âme. Et sûrement, ce doit être à peu près la plus haute félicité de la race humaine lorsque, dans tes retraites, se réfugient 2 âmes sœurs. Également un poème intitulé « On the grasshopper and cricket » sur la sauterelle et le grillon. La poésie de la terre ne meurt jamais. Quand tous les oiseaux abattus par la chaleur du soleil se cachent sous la fraîcheur des arbres, une voix courra de haie en haie le long des prés nouvellement fauchés. C'est celle de la sauterelle qui conduit le concert dans la volupté de l'été. Inépuisables sont ses délices, et lorsqu'elle est lassée de ses jeux, elle se repose à l'aise, abritée sous quelques roseaux hospitaliers. La poésie de la terre ne cesse jamais. Par une solitaire soirée hivernale, quand la gelée a imposé un silence général, dans l'âtre grince le cri du grillon dont la chaleur augmente l'acuité. Il semble au dormeur à moitié assoupi la voix de la sauterelle parmi les collines herbues. Ou encore le poème intitulé « To my brothers, à mes frères », d'autant plus touchant que, comme John, son frère Tom mourra, mais avant lui, de la tuberculose à l'âge de 19 ans, en décembre 1818. À mes frères, de petites flammes agitées traversent le charbon dont on vient d'emplir l'âtre et leur léger pétillement se fait entendre au milieu de notre solitude, tels des chuchotements de dieux familiers qui gardent un affectueux empire sur nos fraternelles âmes. Et pendant qu'à la recherche de rimes, je voyage jusqu'au pôle, vos regards sont fixés comme en un sommeil poétique sur la légende si abondante et si profonde qui, toujours à la tombée de la nuit, apaise nos soucis. C'est ton jour de naissance, Tom, et je me réjouis qu'il se passe ainsi en une reposante quiétude. Bien d'éveillés semblables, de doux chuchotements, puissions-nous passer ensemble et ressentir dans le calme ce que sont les vraies joies d'ici-bas. Avant que la grande voix de la céleste bouche ordonne à nos esprits de prendre notre vol. Pour finir, considérons qu'en effet, cette génération romantique de poètes anglais connaît le plus souvent un destin tragique. John Keats meurt, à peine âgé de 25 ans, le 23 février 1821. Le poète Percy Bysshe Shelley s'abîmera en mer à bord de son voilier l'Ariel dans le golfe de Livourne le 8 juillet 1822 à l'âge de 28 ans. On retrouvera le corps de Shelley rendu au rivage par la mer avec dans sa poche un exemplaire des Poems de Keats. Un an auparavant, Shelley publiera les 55 strophes d'un long poème, Adonaïs, une élégie sur la mort de John Keats. Lisons alors le poème qui a donné son titre au film déjà évoqué de Jane Campion, Bright Star, astre brillant. Astre brillant, puissais-je, immobile comme tu l'es, non pas resplendir à l'écart, suspendu dans la nuit et surveillé, les paupières éternellement redressées, tel un forçat de la nature, ermite sans sommeil, les eaux mouvantes dans leur tâche lustrale, purifiant de leur ablution les rivages des hommes, ou contempler le masque floconneux que, fraîchement tombé, la neige impose aux montagnes et aux bruyères? Non! Mais puissais-je, toujours immobile, toujours immuable, posséder comme oreiller le sein mûrissant de ma bien-aimée pour le sentir à jamais doucement se soulever, puis s'abaisser, éveiller à jamais en une délicieuse insomnie pour entendre encore et encore sa tendre respiration et vivre ainsi toujours, ou sinon m'évanouir dans la mort. Voici la version en anglais.
Bright star, would I were steadfast as thou art, not in lone splendour hung aloft the night, and watching with eternal lids apart, like nature's patient, sleepless eremite, the moving waters at their priest-like task of pure ablution round Earth's human shores, or gazing on the new soft-fallen mask of snow upon the mountains and the moors. No, yet still steadfast, still unchangeable, pillowed upon my fair love's ripening breast, to feel for ever its soft fall and swell, awake for ever in a sweet unrest, still, still to hear her tender taken breath, and so live ever, or else swoon to death.
Et le poème sans titre lui aussi, qui s'ouvre par le vers « This living hand, now warm and capable of earnest grasping. » Cette main vivante, à présent chaude et capable d'ardentes étreintes, si elle était froide et plongée dans le silence glacé de la tombe, elle hanterait tes journées et refroidirait tes nuits rêveuses, tant et tant que tu souhaiterais voir ton propre cœur s'assécher de son sang pour que, dans mes veines, coule à nouveau le flot rouge de la vie et que le calme revienne dans ta conscience. Regarde, la voici, je te la tends. Et sa version en anglais.
This living hand, now warm and capable. John Keats. This living hand, now warm and capable of earnest grasping, would, if it were cold, and in the icy silence of the tomb, so haunt thy days and chill thy dreaming nights, that thou would wish thine own heart dry of blood. So in my veins red life might stream again, and thou be conscience calmed. See here, it is. I hold it towards you.
Il me reste un tout petit peu de temps pour lire un dernier poème qui explicite d'une certaine manière la place et la fonction du poète. Où est le poète? Montrez-le, montrez-le, vous, les neuf muses, que je puisse le reconnaître. C'est l'homme qui, en face d'un homme, est toujours un égal, fût-il un roi, qu'il soit le plus pauvre de la tribu des mendiants, ou n'importe quelle autre chose étonnante que puisse être un homme entre un singe et Platon. C'est l'homme qui, devant un oiseau, roitelet ou aigle, trouve le chemin de tous ses instincts. Il a entendu le rugissement du lion et peut dire ce qu'exprime sa gorge rugueuse. Et pour lui, le hurlement du tigre a une signification et frappe son oreille comme une langue maternelle.
Thank you.
Au cours de cette émission, vous avez pu entendre un certain nombre de comédiens qui ont lu le texte de John Keats, en anglais évidemment. Tout d'abord, c'est Matthew Colton qui a lu l'Ode on Melancholy. Ensuite, c'est Christopher Naylor qui a lu Bright Star. Et enfin, c'est Eric Lynn qui a lu le poème qui commence par This Living Hand. Et enfin, vous avez pu entendre une pièce de Rachmaninoff, l'opus 34, numéro 14, interprétée au violoncelle par la violoncelliste Anna Chang. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.